Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Il est du coup 8h. Nous sommes le mardi 16 avril. Je suis Marion. Je suis ravie de vous retrouver pour discuter de l'actualité tech ce matin en bonne compagnie. Bonjour à tous. Tout de suite, c'est le mag. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes levés du bon pied. Je suis Marion. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je regarde un petit peu dans la chatroom qui nous a rejoint déjà. Il y a du monde, il y a du monde. Dis donc, vous étiez dans les starting blocks ce matin. Salut Elliot, salut Morphix, salut Olek, un grand merci pour ton soutien. Salut Cantinia, salut Groll, un grand merci également pour ton soutien. Dis donc là, les deux compères là, un grand merci à vous. 47e mois et 48e mois, si c'est pas beau ça. Salut FRJS, salut Allianz 24, salut Doz, un grand merci à toi pour ton soutien également. Merci. Salut Charlène 92, salut David Le Pandafou du 57. Salut Déclic, un grand merci à toi pour ton soutien. Oh là là, mais que d'amour ce matin. Je sais pas ce qui vous a pris, mais continuez. Je vous en prie, allez-y. salut Mécano 1966, salut Helsing Black 75, salut Kuro G1, salut Dit Tyrant Beak, salut Noman, salut Laetitia Chlopa, salut Olivier, salut Nounix, salut Erdel, bienvenue à tous, ça fait trop plaisir de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine la semaine dernière. Et on commence cette semaine avec des articles assez cool. Enfin, j'ai l'impression de vous dire ça chaque semaine, mais en même temps, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi, donc je choisis des articles qui m'intéressent. C'est complètement biaisé, on va dire ça comme ça. Je fais ma propre petite sélection de ce qui m'intéresse et ce dont j'ai envie de vous parler et d'échanger avec vous. Donc, de quoi va-t-on parler ce matin ? Oui, c'est ça, Olek. Non, mais cette semaine, j'ai choisi des articles chiants. Non, justement. Donc, cette semaine, on va parler un tout petit peu d'Apple. D'Apple qui relaxe un petit peu sa politique de réparation, on va dire, de ses appareils Apple. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Agréable surprise. Donc, autant bien commencer la journée. On continuera, c'est un article qui n'est pas super réjouissant. comment les deepfakes, et c'est d'ailleurs l'article principal du jour, et je pense qu'il est très très important, c'est comment les deepfakes s'insinuent dans la campagne d'élection européenne. Petit devoir citoyen ici, civique. Je voulais que vous soyez au courant, avoir un petit peu votre avis et voir un petit peu comment finalement... certaines personnes, je ne vais pas dire des partis parce qu'on n'a rien de confirmé comme quoi ça vient des partis, etc. Mais certaines personnes arrivent à contourner finalement les interdictions d'utilisation des deepfakes pour promouvoir des idées politiques d'un parti ou d'un autre, etc. Mais certaines idées politiques. On continuera avec une partie assez importante finalement du côté des sociétés de Mr. Musk. Donc on commencera par... SpaceX, sa société qui est concentrée sur l'exploration spatiale, avec des records toujours plus impressionnants de réutilisation de ses modules pour les fusées. Donc ça, c'est toujours assez impressionnant. Ils redéfinissent un petit peu les standards finalement de l'industrie spatiale et ça, c'est assez intéressant. On enchaînera ensuite avec deux articles qui concernent X ou anciennement Twitter, dont un article qui montre combien Elon Musk aimerait se débarrasser du nom de plateforme Twitter, mais que c'est pas aussi évident que ça et que certaines décisions hâtives, encore une fois, peuvent présenter certains dangers et être facilement utilisées à mauvais escient. Voilà, donc encore des décisions très très réfléchies ici. Et puis, un autre sujet sur X ou Twitter, c'est la proposition d'Elon Musk de faire payer les utilisateurs qui ne sont pas vérifiés pour pouvoir interagir, c'est-à-dire poster, hein, principalement, poster sur la plateforme et donc leur faire payer un frais annuel, un prix annuel pour pouvoir lutter contre les bots. Est-ce que c'est vraiment la bonne tactique? On pourra en discuter tout à l'heure. Et puis, dernière news qui concerne les sociétés d'Elon Musk, et cette fois-ci, ce sera du côté de Tesla, la société qui fait les véhicules électriques, et Tesla qui a annoncé, alors qu'ils n'ont pas annoncé en fait, c'est un mémo interne d'Elon Musk, donc attention, ce n'est pas encore annoncé, c'est un mémo interne qui a fuité, qui a priori verrait venir une séparation de 10% de la masse salariale de la société. C'est pas rien, hein, puisque la société emploie quand même pas moins de 140 000 employés. Donc, si on parle de 10% de la masse totale salariale, c'est environ 14 000 employés de visée. Est-ce qu'on parle de la masse totale ou de certaines équipes? Comme ce n'est pas encore annoncé officiellement, on va prendre ça avec des pincettes aussi. Mais c'est quand même intéressant d'en parler et de voir un petit peu pourquoi Tesla a pris cette décision. Et puis, on continuera avec un objet tech qui a fait parler beaucoup, beaucoup de lui depuis le début de l'année, que ce soit mince, j'ai oublié le nom de la conférence des espèces de gadget tech à Las Vegas, là. Le CES. Merci Grol, bah, tu viens à mon secours. J'étais en train de me dire consumer electronics quelque chose, mais merci, merci. Donc le CES. Donc tout d'abord, on en a entendu parler au CES, et puis ensuite, certains journalistes ont pu le prendre en main au Mobile World Congress. C'est le Human AI Pin. Vous savez, ce petit objet que vous clipsez avec un aimant derrière pour l'attacher sur votre pull, haut, etc. Et qui va vous permettre d'interagir et d'exécuter des tâches sans avoir besoin d'un smartphone. Donc l'idée, c'est de se débarrasser un petit peu de notre dépendance au smartphone ici pour pouvoir faire des tâches simples sans avoir besoin de prendre le smartphone avec ce petit assistant d'intelligence artificielle ici. Est-ce que ça fonctionne réellement? Ben là, on a les premières critiques qui sont partagées, notamment une de The Verge qui a été partagée et une vidéo publiée par Marques Brownlee. Et donc, on pourra voir un petit peu quels ont été les retours jusqu'ici sur cet objet tech. Est-ce qu'il va vraiment révolutionner notre vie et est-ce que ça va se passer aujourd'hui ou demain? Bah ça, c'est une vraie question. Et on continuera avec une petite news vraiment française. C'est notamment la possibilité maintenant pour les propriétaires de montres Galaxy Watch de pouvoir utiliser leur montre connectée pour pouvoir avoir leur passe, enfin pas leur passe Navigo, mais les tickets, enfin les passes Navigo mensuelles, je crois, directement sur leur montre et pour pouvoir du coup passer les transports, enfin utiliser les transports directement avec leur montre. Voilà, donc ça, c'est, ça arrive et bientôt, ça devrait arriver également sur les Apple Watch. On en parlera justement tout à l'heure, après plusieurs années de négociations, des usages élémentaires arrivent. Et on terminera, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps quand même, c'est de fêter les 10 ans déjà, j'ai pris un coup de vieux quand j'ai vu ça, de la sortie du jeu Monument Valley du studio Us2. Monument Valley, pour ceux qui ne se souviennent pas, eh ben, c'est le jeu qui ressemble à ça, voilà, avec des niveaux et des espèces de petits puzzles et de labyrinthes impossibles, très inspirés de l'artiste Escher, avec ses vues isométriques et ses petits personnages, et le petit personnage de l'oiseau énigmatique ici. Voilà, donc jeu qui reste cher à mon cœur, pour être honnête. Un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré, voilà, sur mobile, sur iPad, qui avait un univers tout particulier et qui a rencontré un grand, grand succès. Pourquoi on en parle? Parce que c'est les 10 ans, mais pas que. C'est les 10 ans et également, on en profite pour mentionner l'arrivée future de Monument Valley 3. Et donc ça suffit à éblouir ma semaine. Voilà. Et donc, du coup, bah, peut-être que ça éblouira votre semaine. Donc, j'en profite aussi pour vous le partager. Voilà, et donc avec un article très très sympa sur Wallpaper avec les créateurs du jeu qui montrent un petit peu comment la création du jeu s'est faite. Voilà un petit peu pour les articles ce matin. J'espère que ça vous plaît et je vous propose de commencer sans plus tarder avec le premier article ce matin. Et on va commencer tranquillement à parler bah, d'abord d'une première bonne nouvelle. C'est Apple qui prend plus de flexibilité finalement dans leur politique de réparation des appareils Apple en autorisant l'utilisation de pièces de seconde main ou de pièces déjà utilisées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'ici, toutes les réparations devaient se faire avec des nouvelles pièces finalement d'Apple. Et du coup, ce qui était un peu contraignant, ce qui nécessitait de produire des parties, enfin des pièces séparées, nouvelles, etc. Alors qu'en fait, on a plein de pièces de seconde main qui peuvent exister déjà sur le marché, qu'on pourrait réutiliser et qui permettraient justement d'éviter de produire des pièces additionnelles. Et donc voilà, ça a été annoncé. On a notamment le SVP du Hardware Engineering d'Apple, John Ternus, qui s'est exprimé sur le sujet et il a dit ces 2 dernières années, les équipes d'Apple ont travaillé pour innover dans le design produit et la manufacture pour pouvoir mieux accompagner les réparations avec des pièces déjà utilisées d'Apple qui ne vont pas compromettre la protection, la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Avec cette dernière expansion finalement de notre programme de réparation, nous sommes très excités d'ajouter encore plus de choix et convenience, de praticité à nos utilisateurs, à nos consommateurs pour les aider à étendre la vie de leurs produits et de leur part, enfin de leurs différentes parties ou composants. Voilà un petit peu la déclaration. Donc ça, c'est plutôt vraiment à accueillir. Enfin, moi, en tout cas, je l'accueille vraiment bah, enfin, c'est positif, quoi. On ne peut que féliciter cet ajout. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a d'autres petits changements à prendre en compte. Donc, Apple a expliqué aussi que cette politique de réparation qui permet d'utiliser des pièces déjà utilisées ou des composants déjà existants s'appliquera également aux capteurs biométriques. Donc, ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle, hein, que ce soit Face ID ou Touch ID. Vous allez pouvoir réutiliser des pièces déjà utilisées pour les remplacer si besoin. Et également, ils ont mis à jour leur politique qui jusqu'ici rendait obligatoire le fait d'avoir un numéro, un serial number lorsque vous commandiez des parties. Et ben, finalement, ils ont simplifié le process de réparation et ne vont plus demander ce serial number, mais uniquement le demander lorsque ça touche au logic board. Voilà, donc ça limite un petit peu la complexité ici pour commander des pièces. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ils ont également étendu leur fonctionnalité d'activation lock pour les parties d'iPhone pour décourager finalement le fait de voler des iPhones pour les démanteler, les déconstruire et revendre les parties pour le marché de la réparation. Donc ça aussi, c'est bienvenu. C'est justement pour éviter d'encourager les vols d'iPhone et afin de les réutiliser pour les revendre en petites parts démantelées. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien vu encore une fois. Donc ça, on voit des efforts hein, ici, Apple qui essaye un petit peu de montrer de montrer des bonnes pratiques, de changer un petit peu les mentalités et surtout de rendre les réparations plus faciles, plus flexibles, plus abordables, puisqu'on se dit pièces déjà utilisées, ben, pièces moins chères aussi, et donc pouvoir rendre aussi des réparations plus abordables pour les consommateurs. Donc encore une fois, ça, c'est vraiment bienvenue de leur part. Ça paraît évident, mais ce n'était pas le cas, donc ça vaut la peine quand même d'en parler. Avant de passer à l'autre article, j'en profite pour remercier quand même ceux qui nous soutiennent ce matin, parce qu'il y a du monde ce matin. Un grand, grand merci à vous qui nous soutenez, notamment Dame's Dream, Bpascal91 et Kekai0. Merci à vous tous qui avez décidé de prendre un abonnement Prime, ce qui nous permet de rémunérer les personnes qui travaillent au quotidien pour vous produire ces contenus sur l'actualité tech. Un grand, grand merci à vous. Voilà en tout cas pour cet article et cette news qui est très positive. Et après cette petite dose de positivisme, de bonnes nouvelles, on enchaîne sur quelque chose d'un peu moins réjouissant, mais qui est très important et même plus important, on va dire, puisque là ça touche aux élections européennes. Et donc c'est très très important. Et d'ailleurs, voilà, je vous rappelle, les élections se dérouleront début juin. Donc n'oubliez pas de vous préparer là-dessus. Petit message civique. Voilà, nous, on ne sera pas en France, donc on a préparé nos procurations. Mais on est prêt, on est prêt. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je voulais vous parler des élections européennes ce matin? C'est quoi le rapport avec la tech? Très bonne question. Le rapport, c'est tout simplement l'influence des deepfakes et l'utilisation des deepfakes sur les réseaux sociaux pour potentiellement influencer le vote pour les élections européennes qui va se dérouler très prochainement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on a plusieurs vidéos virales qui présentent des soi-disant personnalités qui seraient affiliées à Marine Le Pen et qui utilisent donc le réseau social TikTok pour défendre entre guillemets leur famille ou les idées du Rassemblement National. Et en fait, il s'agit tout simplement de deepfakes créés avec une intelligence artificielle. Donc on a plus précisément même trois comptes qui existent, qui sont sous les noms de Amandine Le Pen, Chloé Le Pen et Léna Maréchal, donc vraiment la famille ici politique d'extrême droite. Et donc ces comptes sont des deepfakes, ce ne sont pas des personnes qui existent et qui d'ailleurs, la manière dont elles sont faites, des deepfakes, ont un peu collé le visage de Marine Le Pen sur ces deux des comptes. Et sur le troisième, c'est le visage de Marion Maréchal. Voilà, donc elle ressemble très, très fortement à ces personnalités d'extrême droite. Et donc, ces fausses trois jeunes femmes et donc, épousent parfaitement les codes des réseaux sociaux. Elles racontent leur vie, qui n'existe pas, mais elles racontent leur vie, se prennent en photo, dansent et surtout ressemblent, donc, comme je disais, énormément à Marine Le Pen et Marion Maréchal, avec qui donc elles affirment avoir un lien de parenté. Il leur arrive d'ailleurs de commenter explicitement ce lien pour raconter leur fierté d'être une Le Pen et leur impatience de voir leur tante arriver au pouvoir. Ces derniers jours, d'ailleurs, ça c'est un article de Numérama que je vous partage. Beaucoup d'internautes, et dont Numérama, s'est vu suggérer une vidéo d'une nièce, entre guillemets, parce qu'elle se présente comme telle, d'une nièce Le Pen. Et sur Twitter, le 12 avril, on a le compte Sect Troll qui a mis à jour le fait qu'il s'agissait en fait de deepfake et qu'Amandine, Chloé et Léna n'existait pas. Et donc, il reprend ici une info qui est parue sur RTS, le service public suisse. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des informations très, très importantes à savoir lorsque vous tombez sur ce genre de vidéo. C'est vraiment des deepfakes. Et l'illusion, malheureusement, est parfaite. On le voit d'ailleurs dans les commentaires de ces vidéos sur les comptes. On a des utilisateurs TikTok qui disent à ses soi-disant nièces qu'ils sont fans de leur tante ou qu'ils la détestent, parce que ça peut évidemment déclencher des réactions comme l'autre, et commentent leur physique, les semblent convaincus de parler à des membres de la famille de Jean-Marie Le Pen. Certains montages sont moins bien faits que d'autres, mais les plus populaires, les vidéos les plus populaires, les plus virales, sont eux, les montages très réussis. Donc il est vraiment difficile potentiellement de deviner au premier abord qu'il s'agit d'une IA et qui a juste tout simplement juxtaposé les visages de Marine Le Pen et Marion Maréchal sur celui d'une comédienne. Voilà un petit peu les images que l'on peut voir avec un exemple ici d'une jeune femme qui ressemble étrangement à Marine Le Pen et qui se dit fière française, famille, engagée, bref. Donc ça, on peut se dire que c'est un message relativement anodin. Malheureusement, c'est justement la stratégie très très dangereuse de ces comptes-là qui finalement rendent acceptable et rendent populaire des idées extrémistes d'extrême droite. Alors après, on peut être d'extrême droite, hein, chacun ses opinions, mais il y a aussi une espèce de banalisation de certaines idées qui sont assez dangereuses, en plus avec l'utilisation de deepfake, et donc deepfake qui est là pour manipuler l'opinion publique. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Autant discuter d'idées politiques et présenter des programmes et discuter de ces programmes pour le but de chacun former son opinion pour les élections, c'est utile. Autant manipuler l'opinion publique avec l'utilisation de deepfake, c'est normalement interdit ou c'est très très dangereux. C'est peut-être pas explicitement encore interdit, on va le voir justement tout à l'heure. Mais donc voilà, là la technique, c'est pour attirer les jeunes. On a vraiment ces faux comptes d'Agnès Le Pen qui n'hésite pas donc à miser sur des photos sexy, reprendre les codes vraiment de TikTok. Voilà, donc des photos sexy connues pour être donc très appréciées des algorithmes de TikTok et Instagram. Et permettent donc d'atteindre de plus en plus de personnes sur ces réseaux sociaux et donc de diffuser finalement et de banaliser un certain positionnement politique qui était beaucoup plus montré du doigt il y a certaines années. Ce qui est intéressant, c'est donc les comptes d'Amandine et Léa et Léna indiquent qu'il s'agit de fausses images dans leur biographie, mais pas dans leurs posts et dans les vidéos. Celui de Chloé prétend être authentique et les mentions IA que l'on peut voir aujourd'hui ont été probablement ajoutées récemment au vu du très grand nombre de personnes qui sont tombées dans le piège. Et notamment, on sait aussi que signaler l'usage de deepfake permet de respecter les conditions générales d'utilisation des plateformes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de... Mais est-ce que c'est normal d'utiliser des deepfakes pour promouvoir certaines idées politiques ou banaliser certaines vues politiques? Bah, en fait, le problème, c'est que ces comptes sont vraiment à la frontière ici de l'interdiction, puisqu'en fait, ils présentent des personnages imaginaires. Donc ici, il n'y a pas de se faire passer pour, entre guillemets, se faire passer pour une personnalité existante. Elles n'essayent pas de se faire passer pour Marine Le Pen ou Marion Maréchal. Elles se font passer pour des personnages fictifs. Ce sont des personnages fictifs. Elles se font passer pour la famille d'eux qui n'existe pas finalement ici. Et donc, ce sont des personnes imaginaires qui ressemblent à des personnes réelles. Et donc, c'est difficile finalement de parler... Ce n'est pas de l'usurpation d'identité en tant que telle, puisqu'on ne peut pas usurper l'identité d'une personne qui n'existe pas. Voilà, ça montre un petit peu les trous dans la raquette finalement des conditions d'utilisation ou des cas d'interdiction des deepfakes potentiellement. Et ça marque vraiment un tournant dans l'utilisation des deepfakes en campagne électorale. Alors attention, comme je disais en introduction, il n'a rien... Aujourd'hui, on n'a rien qui prouve que c'est un parti politique ou un autre qui a créé ces comptes et qui est derrière finalement ces comptes pour communiquer et déployer certaines vues politiques. Donc ça, non, il peut potentiellement juste s'agir de partisans et de personnes qui ont ces vues politiques et qui veulent démocratiser leur opinion politique. C'est pas forcément un parti. Là, on peut pas s'avancer, on ne peut pas pointer du doigt encore. Mais ça serait quand même intéressant qu'on se sensibilise à ces pratiques qui sont ici pour mener en bateau et manipuler l'opinion publique pour que vous puissiez vous faire votre opinion de manière informée sans être finalement mené en bateau par des faux comptes. Et ça, c'est vraiment... vraiment dangereux, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux plus jeunes, qui va avoir un impact et une atteinte vraiment importante. On le voit parce qu'ils reprennent les codes des réseaux sociaux. Ils vont permettre d'atteindre toute une frange de population très jeune, qui est très friande de ce genre de contenu, et rendre des idées extrémistes très acceptable, entre guillemets, très banal, enfin banaliser ces vues-là. Et c'est ça qui est vraiment dangereux et ça marche complètement dans cette stratégie du Rassemblement National de banaliser et de rendre acceptable des vues qui aujourd'hui, enfin qui, des vues qui, il y a quelques années, pas si lointaines, étaient choquantes pour la plupart des gens. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très dangereux. Bon, vous en avez déduit mon opinion politique à ce sujet, mais voilà. Et encore une fois, chacun est libre de former son opinion politique. Moi, vraiment, ce qui me pose problème, c'est la manipulation de l'opinion publique pour banaliser certaines vues. On peut être d'accord avec certaines vues, et moi, je peux être en désaccord avec celles-ci, mais il faut être informé de manière transparente et claire. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Donc vous êtes au courant, maintenant, faites attention. Je vais quand même vous montrer une vidéo. Je suis toujours partagée finalement dans ce genre d'article parce que ça vous donne envie d'aller voir ces vidéos, de leur donner encore plus de vues et potentiellement encore de contribuer à la diffusion finalement de ce genre de posts, parce que plus il y a de vues, plus TikTok va les pousser, TikTok, Instagram, etc. Mais il y a aussi un devoir d'information ici et de montrer combien certaines vidéos sont vraiment bluffantes en termes de réalisation. Et donc là, on a un exemple de vidéo de Amandine Le Pen, donc je rappelle, deepfake ici, c'est un faux compte, une personnalité ou un caractère qui n'existe pas. Et je vous montre un petit peu combien ça peut être un peu bluffant si la vidéo fonctionne. Ah bah alors là, j'ai l'effet Bonaldi ici. Hop, je vais aller directement sur X. Voilà un petit peu la vidéo quoi. Donc là, voilà, vidéo sexy à la Tomb Raider pour avec des messages très nationalistes ici. Voilà. Donc ça, voilà un peu comment diffuser des idées politiques d'un certain promues par un certain parti et les rendre populaires auprès d'un public pas averti ici. Et ça, c'est un vrai, vrai problème. Donc vous voyez que c'est quand même assez bluffant. Et évidemment, ce sont donc les visages donc, de Marine Le Pen et de Marion Maréchal qui sont superposés sur des actrices, finalement, qui jouent pour induire en erreur les utilisateurs. Donc voilà, vous êtes avertis. Je regarde un peu les commentaires dans la chatroom. Oui, tout à fait, Oleg, c'est très bien réfléchi. Penser pour ne pas pouvoir être poursuivi, c'est pas juste un kikou dans son coin. Et c'est ça le problème, c'est que il faut pas juste se dire « Ah non, mais c'est rien, c'est des vidéos comme ça, etc. » Non, on pourrait y voir, moi j'y vois en tout cas, une vraie stratégie de communication pour toucher un jeune public qui vont en être à leurs premières élections ou peut-être les quelques élections, ils ont peut-être un petit peu voté avant, etc. Et même peut-être qu'ils vont peut-être pas encore voter maintenant, mais ils feront partie des futurs électeurs dans quelques années. Mais le vrai problème, c'est que c'est une vraie stratégie de communication, de banalisation d'idées extrémistes auprès d'une population qui a l'habitude de consommer ce type de contenu parce que ça reprend les codes des plateformes des réseaux sociaux et qui ne sont pas avertis qu'en fait on essaye de les manipuler ici. Et c'est un vrai, vrai problème. On n'est pas dans la parodie ou critique ici. On est vraiment dans la manipulation de l'opinion. Donc c'est un vrai, vrai problème et ça montre un petit peu, c'est une nouvelle forme de désinformation, en fait, pour manipuler l'opinion publique. Sauf qu'on n'essaye pas de vous communiquer des fausses informations, on essaye de vous diffuser, sans que vous soyez au courant, diffuser des idées politiques d'un certain parti sans montrer qu'en fait, voilà, ça n'existe pas, ces personnages n'existent pas, et qu'on parle de politique ici. Donc, c'est des poupailles. Là, tu tombes vraiment dans le débat, le faux débat ici. Ce qui vous pose problème, c'est que ça concerne le RN. Personnellement, évidemment, j'ai un problème avec le RN. Mais non, le problème ici, c'est la manipulation de l'opinion. C'est d'utiliser des techniques de deepfake, de faux messages, pour communiquer des idées politiques. Et ça, c'est pas normal. Si tu veux communiquer des idées politiques, fais-le correctement avec transparence et des méthodes légales. Ici, tu manipules l'opinion avec des faux personnages, juste pour démocratiser certaines vues. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà. Donc à voir, en espérant en tout cas que, au vu finalement de ces stratégies-là, les conditions d'utilisation et d'interdiction des deepfakes s'étoffent un petit peu pour contrer ce genre d'utilisation. Et on le disait, aujourd'hui, ils tombent vraiment dans... ils ont réussi à trouver une stratégie de communication qui n'est pas explicitement encore interdite finalement, parce qu'ils ne sont pas vraiment clairement en train d'usurper une identité d'une personne qui existe, mais ils sont en train de véhiculer, enfin d'utiliser les visages de certaines personnes pour les superposer sur d'autres personnages fictifs pour diffuser certaines idées. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très dangereux, très malin, il faut le reconnaître, très, très, très malin, mais très dangereux aussi. Moi, j'espère en tout cas que les conditions d'utilisation des deepfakes vont s'étoffer pour interdire cet usage-là. Voilà, d'où l'intérêt, en effet, de réguler l'utilisation des deepfakes, tout à fait. En tout cas, sur ce type d'usage. Et on l'avait vu, hein, c'est pas pour rien que les sociétés qui travaillent sur l'intelligence artificielle et ce type d'outils ont interdit, et on l'avait vu avec OpenAI, avaient interdit l'utilisation de leurs outils à des fins politiques. Voilà. Donc, il y a vraiment ce danger-là, le fait d'utiliser ce type de technologie pour influencer l'opinion et les votes. Donc voilà. À voir, mais je voulais attirer votre attention sur ce genre d'usage. Sachez, ne tombez pas dans le panneau ici. Et peut-être informez vos proches et peut-être les plus jeunes qui sont friands de ce genre de réseaux sociaux de ce qui peut se passer et ouvrez un peu le débat sur ce genre d'idées et qu'est-ce que ça veut dire. Soit un message un petit peu anodin de fier de la France et je vais défendre la France, etc. Qu'est-ce que ça veut dire derrière et quelles idées sont véhiculées derrière. Donc ça, c'est toujours sain de parler et d'ouvrir un petit peu la discussion sur certaines idées politiques. Ça permet aussi de former son opinion, mais aussi voilà, de discuter entre soi. Voilà. Là-dessus, je vous propose de passer à l'article suivant et on va parler des différentes sociétés d'Elon Musk. Certaines pour des bonnes news, certaines pour des petits ratés et d'autres pour des nouveautés qui arrivent et d'autres pour des mauvaises nouvelles. Voilà. Donc, on commence par des choses assez impressionnantes de la part de la société SpaceX. SpaceX, c'est celle qui est sur l'exploration spatiale, ou en tout cas le commerce de l'industrie spatiale. Et qu'est-ce qui se passe du côté de SpaceX ? Eh bien, ils vont lancer une de leurs boosters réutilisables, le Falcon 9, pour la 20e fois. Vendredi prochain. Et pourquoi finalement ça c'est très important ? Bah tout simplement parce qu'en fait ça explose la durée de vie prévue qui était prévue pour ce type de booster même de la part de SpaceX. Et donc ça c'est assez intéressant. Chaque jour à peu près SpaceX on le voit qui prévoit de lancer une fusée ou de préparer carrément et d'amener une de leurs fusées sur le pas de lancement. Et à ce rythme, SpaceX est vraiment en train de redéfinir qu'est-ce qu'est la routine de l'industrie spatiale. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Qu'on apprécie ou pas Elon Musk, il y a des révolutions, ou en tout cas des bouleversements d'industrie qu'il faut reconnaître et saluer ici. Et Et du coup, cette société est continuellement en train de casser ses propres records, et ça, c'est assez étonnant. Et donc là, on parle donc du coup de cette espèce de first stage booster, le booster qui fait partie de la première section de la fusée. Et il a volé donc jusqu'ici 19 fois depuis son premier vol en novembre 2020. Le booster va être maintenant le premier de la société SpaceX à aller sur son 20e vol, ce qui dépasse le record des trois autres fusées de la société. Qu'est-ce que je peux vous dire? Normalement, quand SpaceX a débuté la dernière version donc de son Falcon 9, de sa fusée Falcon 9, les officiels avaient communiqué sur le fait que justement ce premier étage de la fusée, qui était réutilisable, pourrait voler environ 10 fois. Avec un entretien minimal, peut-être quelques vols de plus avec un investissement un peu plus important sur l'entretien, etc. Mais normalement, c'était 10 vols sans avoir d'entretien majeur ici. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, SpaceX en est à certifier les boosters de Falcon 9 pour 40 vols. Donc voilà, donc ils ont multiplié par 4, finalement, la durée de vie avec un entretien minimal de ces boosters-là. Et jusqu'ici, le booster dont on parle, qui prévoit son 20e vol donc ce vendredi, n'a pas eu d'entretien ou de maintenance très lourde, où il n'a pas été bloqué à terre pendant un certain temps, hein. Donc vraiment, ça, c'est impressionnant. Il a volé en moyenne une fois tous les 2 mois depuis le début de sa vie. Donc ça, c'est assez remarquable aussi comme rythme. Et donc, avec son 20e vol ce vendredi, il aura atteint la moitié de sa nouvelle durée de vie estimée de 40 vols sans avoir eu d'entretien majeur, etc. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ça paraît anodin, mais je voulais quand même le mentionner, et c'est des changements de conception d'industrie spatiale, de rythme qui sont assez remarquables. Et on voit notamment quand on compare avec leurs compétiteurs, ça sera pour information, ça sera donc le 6e lancement Falcon 9 en moins de 8 jours. Enfin, rien que cette échelle-là, en moins de 8 jours, ils auront lancé 6 fusées Falcon 9. C'est plus de vols que ce que le principal compétiteur de SpaceX américain a, United Launch Alliance, a lancé en 17 mois. En moins d'une semaine, enfin, en une semaine, un peu plus d'une semaine, en 8 jours, ils ont dépassé ce qu'a fait United Launch Alliance en 17 mois. Juste pour vous donner un ordre d'échelle ici, un ordre d'idée en termes de rythme ici pour SpaceX. Et donc voilà, c'est ce genre de choses quand même qu'il faut réaliser et ce qui bouleverse quand même l'industrie spatiale ici. Voilà. Il lance quoi dedans? Ben là, en tout cas, pour le vol de vendredi, c'est 23 satellites Internet Starlink pour continuer à déployer leur réseau de couverture Internet. Voilà. Voilà. Je regarde un petit peu qui nous soutient. Un grand, grand merci à Sébas et Pax Magellanis pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Donc voilà, en tout cas, pour SpaceX, ça se passe bien de leur côté. On continue, et cette fois-ci, on change de société de Elon Musk, et on va parler de X, anciennement Twitter. Et justement, on va parler de ce changement de nom entre X et Twitter. Alors, mon avis personnel, c'est que X est le pire nom de réseau social qu'on aurait pu choisir. Mais bon, voilà, c'est mon avis très personnel. Et surtout pour les connotations, etc. Mais bon, voilà, ça a été fait. Et donc, du coup, même si le changement de la société de Twitter à X s'est opéré l'été dernier, eh ben, il faut quand même reconnaître que le principal nom de domaine aujourd'hui du réseau social reste Twitter.com. C'est-à-dire que tous les liens, toutes les plateformes, etc., du réseau social, ça reste Twitter.com. C'est pas aussi simple de changer de nom de société du jour au lendemain. Il y a une différence entre changer de nom de communication et changer le nom de domaine. Qu'est-ce qui se passe de tous ces liens, toutes les redirections, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On sent que Elon Musk essaye de pousser à tout prix sur ce changement de nom et que les gens arrêtent d'appeler Twitter Twitter, enfin X Twitter, comme moi, par exemple, qui fait de la résistance. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Lundi, on a vu certaines tentatives pour encourager les utilisateurs d'arrêter de faire référence à Twitter et à l'inverse, d'essayer d'adopter le nom X. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, il y a certains posts sur Twitter, certains posts qui mentionnaient Twitter.com qui ont été automatiquement transformés en X.com. Voilà, donc toutes les références au domaine Twitter.com étaient automatiquement changées en X.com. Donc ça, c'est assez intéressant. On le voit ici, vous pouvez voir un exemple. Vous voyez un post ici avec le post original qui est en réponse, hein, mais le post qui affiche test.com/, et puis vous voyez que ça termine par x.com. Et en fait, vous voyez qu'à l'origine, c'était bien twitter.com qui était écrit et que ça a été automatiquement changé en aperçu, hein, juste visuellement. Visuellement, au lieu de voir twitter.com, vous voyez x.com, mais l'URL reste la même. C'est-à-dire que l'URL est bien twitter.com. Alors vous allez me dire, non mais c'est pas très grave, pourquoi on parle de ça, etc. Mais en fait, on pourrait se dire que c'est pas très grave, sauf qu'en fait, ça peut être la porte ouverte à des campagnes de phishing, de redirection pour induire les utilisateurs en erreur. Un autre exemple un peu moins anodin ici, c'est celui-ci, en utilisant netflix.twitter.com. Qu'est-ce qui se passe quand on utilisait ça ? Eh ben, c'est que twitter.com était automatiquement changé en x.com, ce qui donne netflix.com. Et donc, tout simplement, quelqu'un aurait pu acheter ce nom de domaine pour rediriger les gens vers une inscription, une souscription d'abonnement et commencer à récolter des données bancaires, de l'argent, etc., etc. Donc ça, c'est très, très dangereux. Tu viens sur la plateforme, tu cliques sur un lien où tu as l'impression qu'on parle de Netflix et finalement, tu es redirigé sur un autre nom de domaine, mais tu ne regardes pas trop parce que tu avais vu que l'URL était là-dessus sur le réseau social X. Et que finalement, l'URL est différente une fois que tu cliques dessus. Donc ça, c'est très dangereux. Donc là, c'est un exemple avec Netflix. Il y a un autre exemple très évident, c'est cette Twitter qui donnerait sex.com. Évidemment, évidemment. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples qui ont été donnés. Encore une fois, un exemple de lubie. De lubies de magnates de la tech qui essayent de faire passer un changement de plateforme parce que les gens font de la résistance. Voilà, c'est assez pathétique, mais qui ne réfléchit pas aux conséquences et au manque de transparence et à la sécurité de leurs utilisateurs. Voilà, alors depuis, il y a eu un patch, hein, parce qu'évidemment, la communauté c'est un peu offusqué sur cette pratique. Alors certains chevaliers blancs ont carrément acheté les noms de domaines risqués du type Netflix Twitter ou Set Twitter en affichant un message de ce nom de domaine est acheté pour un an pour prévenir tout risque d'usage de mauvais usage, etc. Voilà, très bien. Et depuis, ils ont eu aussi certains patchs pour éviter l'utilisation de Netflix, Twitter, etc. et le changement. Est-ce que ça va suffire ? Bah, c'est un peu la recherche à tous les noms de domaines un peu risqués qui pourraient exister. Donc, c'est juste un peu pathétique, moi, je trouve, comme pratique. Et c'est vraiment s'épuiser pour rien ici. Faites une redirection réelle et bien pensée. Enfin, voilà. Et c'est d'autant plus pathétique que le principal nom de domaine de la plateforme reste twitter.com. Qu'il le veuille ou non, aujourd'hui, c'est ça. Donc voilà. Voilà. Voilà pour la petite anecdote, comme quoi certaines décisions produits ne sont pas si anodines que ça et qu'il faut réfléchir à deux fois. On continue encore avec X et Twitter pour une autre idée d'Elon Musk ici sur le réseau social. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à l'origine, on en a parlé l'année dernière où il y avait des rumeurs comme quoi Elon Musk songeait à demander à des nouveaux utilisateurs sur la plateforme de payer un petit peu pour les autoriser à poster des messages sur le réseau social s'ils n'étaient pas vérifiés, hein, puisque les utilisateurs vérifiés payent déjà un abonnement pour pouvoir avoir le profil vérifié. Donc là, ici, ce serait pour ceux qui ne payent pas pour utiliser et commenter, surtout pour poster hein, sur le réseau social, leur faire payer un petit prix symbolique pour lutter contre les bots. Alors là, il s'agirait plus d'une rumeur, puisque c'est carrément un post d'Elon Musk sur X, ici, qui serait en train, en effet, de rendre cette rumeur un peu plus véridique. Ça a été posté hier, le 15 avril. Enfin, je ne sais pas quel jour on est. Oui, c'est ça, hier, le 15 avril 2024, où Elon Musk, son compte officiel, dit en effet un petit prix pour un nouveau utilisateur et lui donner la possibilité d'écrire sur le réseau social est le seul moyen de lutter contre les bots et les faux comptes. Toutes les technologies AI ou les troll farms peuvent facilement passer les questions « Are you a bot ?»« Êtes-vous un bot ?» Et donc, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de dire. Donc ça, c'est un post qu'il a partagé. Voilà, vous le voyez à l'écran. Alors, est-ce que concrètement, c'est vraiment crédible, finalement, de faire payer les utilisateurs. Alors, en tant que tel, c'est un parti pris produit, en effet. Alors, on n'a pas de prix classique, enfin, de prix divulgué ici, s'ils songeaient à le faire. On n'a pas de date aussi là-dessus. On sait simplement que Elon Musk semble accorder, en tout cas, de l'importance et de la valeur à cette idée de faire payer des utilisateurs gratuits, des nouveaux utilisateurs gratuits sur le réseau social pour leur permettre de poster des messages sur le réseau X Twitter. Pour aller plus loin, il mentionnait aussi que potentiellement, pour ceux qui décident de ne pas payer, ils pourraient débloquer l'option de pouvoir poster après 3 mois d'attente sur le réseau social. Donc ça leur permettrait tout simplement de pouvoir voir des posts, les lire, etc., s'abonner et suivre, mais sans pouvoir poster. Et donc, du coup, en fait, j'ai envie de te dire, bah, qu'est-ce qui empêche de créer des faux comptes ? Qu'est-ce qui empêche les bots de créer des faux comptes et de les avoir un peu dormants et de les activer au bon moment ? Et comme ça aura fait plus de 3 mois d'existence, eh ben, ils auront la possibilité de poster gratuitement. Donc, en fait, tu dis, ça ne sert pas à grand-chose. Et aussi, l'autre point, c'est qu'en fait, l'argument de faire payer les utilisateurs pour lutter contre les bots, parce que les bots n'allaient pas payer, c'était un des arguments principaux pour justement avoir le badge verified sur X Twitter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, en fait, on a vu qu'il y a beaucoup plus de bots aujourd'hui qui ont de badge verified qu'avant. Et donc, en fait, ça ne marche pas, finalement. Voilà, donc soi-disant le fait de faire payer va dissuader la création de bots, a priori ça ne marche pas, on le voit déjà avec le badge verified. C'est un vrai problème et ça semble pas vraiment être une très très bonne réponse. De par le fait du délai de 3 mois et de par le fait qu'avec l'abonnement Verified, on a vu que ça ne dissuadait pas d'avoir des faux comptes qui finalement payent ce badge Verified. Voilà. À voir, on verra. En tout cas, c'est mon avis. Et on n'a pas encore une fois l'information de quel prix serait. On évoquait le prix de 1$ par an. Donc, les utilisateurs qui ne payent pas leur badge Verified auraient à payer 1$ par an pour pouvoir poster sur la plateforme. Est-ce que vous, dans la chatroom, ça m'intéresse, on va faire un petit sondage très rapide. Vous seriez prêt à payer 1$ par an. Alors attendez, j'écris un petit peu le peut-être. Et 2 minutes, allez-y. Et donc la question, c'est seriez-vous prête à payer 1$ par an pour pouvoir poster sur X? Voilà. Donc, finalement, ce sondage, je pense qu'il s'adresse vraiment à ceux qui ont un usage où vous postez au quotidien, finalement, sur le réseau social, parce que c'est vous qui allez être le plus impacté. Moi, par exemple, je poste tellement peu que je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller payer sur la plateforme. Voilà, donc allez-y. Pour l'instant, à l'unanimité, c'est certainement pas... Hein. 38 personnes, 40 personnes votent certainement pas versus 3 personnes qui votent absolument. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une question d'utilisateur intensif aussi du réseau social. Alors je regarde un petit peu vos commentaires en même temps. Voilà, Burberry dit oui par exemple, mais d'autres disent, c'est Said, Léod69 et Dave McFly dit jamais, pas un centime, même pas en rêve. L'instant sondage et le clavier qui va prendre cher. Ça va Oleg, je suis restée soft, je me suis pas trop plaint ce matin. Hippomonie qui nous dit rien pour ce truc que j'ai abandonné depuis longtemps. Le graphique, il nous a dit, j'ai fermé mon compte il y a un an, ouais. Ah, il y en a pas mal d'entre vous qui ont fermé leur compte. Genre, mais déjà en train de payer 10 ans d'avance pour pouvoir parler de poêle en inox, au secours. Donc, à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même à l'unanimité. Voilà, le sondage est terminé. 74% d'entre vous ont dit certainement pas. 6% d'entre vous ont dit bof. Et après, on est à 10% quand même, absolument, quand même. Et 10%, alors peut-être. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Surprise, finalement, du pourcentage. Il y a quand même 14 personnes hein, qui ont voté pour absolument ou peut-être. Versus 52 personnes qui ont dit certainement pas. À voir. Et finalement, si ça suffit pour... Enfin, je soupçonne que finalement, c'est ceux qui vont poster le plus, qui vont y voir un intérêt. Donc, pas sûr que finalement, Twitter X y perde ici à faire payer quoi. Donc, à voir. En tout cas, vous êtes prévenus. Encore une fois, on n'a pas de date officielle sur ce sujet. On n'a pas de prix communiqué officiel. Mais ce qui semble, c'est que ce n'est pas exclu. Et potentiellement, ils seraient peut-être en train de travailler sur ça, justement. Donc, à voir. Et puis, dernière news qui concerne Tesla ce matin et qui concerne donc une société Elon Musk, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle pour les employés de Tesla, puisque d'après un mémo interne dont Business Insider a mis la main dessus, eh ben, Tesla serait en train de réduire le nombre de leurs employés et de se séparer de plus de 10%. Plus de 10% de leurs employés. Donc, pour information, quand même, Tesla, c'est 140 000 employés à travers le monde. Donc, c'est pas rien. Et donc, du coup, ça voudrait dire 14 000, au moins 14 000 employés dont ils se sépareraient. Alors, là où on peut prendre l'information avec des pincettes, c'est que est-ce qu'on parlait de la masse salariale totale de la société à travers le monde, ou est-ce qu'on parlait de 10% de certaines équipes? Voilà, c'est pas encore très très sûr, et quand on aura l'information officielle, on vous tiendra évidemment au courant, mais en tout cas, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour la société. Donc ça, c'est un mémo interne que Business Insider a vu et qui a été envoyé par Elon Musk dimanche. Toujours classe d'envoyer ce genre de mémo un dimanche, quoi. Vraiment, en termes de communication, c'est quand même assez, assez agressif, quoi. Les employés, enfin, je sais pas, la semaine de travail, c'est du lundi vendredi. Il y a peut-être des personnes qui sont d'astreinte le week-end, etc. Mais bref, normalement, c'est du lundi au vendredi, quoi. Surtout, ce genre d'informations super importantes, tu communiques pas un dimanche là-dessus. Bref. Et donc le mémo mentionne, en tout cas dans l'email de Elon Musk, il mentionne « There is nothing I hate more, but it must be done. This will enable us to be lean, innovative and hungry for the next growth cycle. » Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il mentionne en fait tout simplement qu'il n'y a rien qu'il déteste plus, mais ça doit être fait et ça va leur permettre d'être plus lean, ça veut dire plus petite équipe, efficace et flexible et plus efficace, ouais, innovant et plus hungry for, c'est à la recherche de leur prochain cycle de croissance. Enfin, pas hungry, c'est avoir faim de croissance, quoi. Vraiment un peu se dépasser pour la croissance. Désolée pour la traduction en temps réel, je suis pas très très bonne. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah, ce mémo interne coïncide aussi en termes de timing, de temps, d'annonce, aux premiers chiffres qui sont tombés en termes de livraison sur le premier quarter de la société, qui a vu donc une baisse significative ici des livraisons, et qui tombe en dessous des prévisions de Wall Street pour le premier quarter. Et donc, c'est une baisse quand même de 20% par rapport au quarter précédent. Et donc, ça représente aussi une baisse de 8% par rapport à la même période l'année dernière. Et donc, ce n'est pas très, très bon. C'est le premier déclin en termes de vente depuis 2020. Et donc, ça n'envoie pas un signal positif du tout, surtout dans un contexte finalement où Tesla était jusqu'ici la société de référence en termes de voitures électriques. Voilà, c'était la société évidente quand on cherchait une voiture électrique. Elle était un peu, enfin, évidemment, vous aviez les constructeurs traditionnels qui, eux aussi, essayaient de rattraper un peu leur retard, mais ils étaient un peu, voilà, un peu en train d'essayer de galérer à rattraper leur retard plutôt qu'un compétiteur très, très viable ici face à Tesla. Mais ce qui s'est passé depuis quelques mois, quelques années maintenant, c'est que la compétition arrive du côté du marché chinois qui ici arrive de manière très rapide avec plusieurs modèles, un savoir-faire sur les batteries très impressionnant et des prix beaucoup plus abordables. Et donc là, finalement, la compétition arrive et met en danger potentiellement le monopole de Tesla. Et donc ça, c'est très, très intéressant à voir, mais très dangereux, évidemment, pour Tesla. Donc pas du tout étonnant de voir un petit peu cette démarche de la part de Tesla pour essayer d'être un peu plus compétitif de ce côté-là. Voilà, en tout cas, pour cette annonce. On continue et on aborde un peu la fin de l'émission. Et avant de clore l'émission, je voulais vous parler quand même d'un objet. Et l'objet que je voulais vous mentionner ce matin, c'était donc le Humane AI Pin. Là, vous pouvez voir la review de The Verge. Voilà, le site extrêmement connu, spécialisé sur la tech, qui fait d'excellents articles. Donc, je vous encourage à aller lire l'article ou regarder leur vidéo en termes de revue sur l'objet. Et en plus, il vous fait pas mal de démos sur l'objet. Donc, vous pouvez le voir utilisé en conditions réelles. Et c'est assez intéressant de voir un petit peu ses performances ou son manque de performances. Et donc, qu'est-ce que c'est le Human AI Pin ? Bah, pour rappel, c'est un objet qui est quand même à un prix de $600, enfin $699, donc presque $700, $699 en termes de prix pour acheter ce petit objet, et qui s'additionne d'un abonnement de $24 par mois pour pouvoir avoir un abonnement réseau et pouvoir l'utiliser un peu partout en ville, etc., sans nécessiter une connexion Internet, mais juste une connexion cellulaire. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Bah, tout simplement, sa promesse, c'est d'être un smartphone sans un écran. Au lieu de devoir vous demander d'ouvrir des applications, de naviguer, de recevoir des notifications et d'être venu sur votre smartphone pour faire quelque chose et d'être déconcentré par une notification, des messages, etc., ou tout simplement des icônes et vous donner envie d'aller sur les réseaux sociaux et finalement vous avez oublié ce que vous étiez venu faire sur votre smartphone. Moi qui ai réduit énormément les notifications, même moi, ça m'arrive encore d'avoir ce genre de défocus quand j'ouvre mon smartphone et c'est assez agaçant. J'ai l'impression vraiment d'être Dory dans Nemo, quoi. C'est genre, je vois un truc passer, je fais « Ah, tiens !» Et je reviens, je fais « Qu'est-ce que j'étais en train d'essayer de faire ?» C'est très, très pénible. Et donc, du coup, la promesse, c'est ça. C'est d'être un smartphone sans l'écran et donc de casser un petit peu tout ce défocus que vous pouvez rencontrer avec l'utilisation de votre smartphone. De ne plus vous demander à quelle application je dois ouvrir pour effectuer une tâche ou répondre à mon besoin et de tirer avantage de ce petit wearable, ce petit objet à porter pour pouvoir finalement lui demander de faire les tâches à votre place. Et donc du coup, il se dote d'un système, un operating system qui s'appelle Cosmo OS, tout simplement, et qui va vous permettre d'interagir avec une couche d'intelligence artificielle, un assistant d'intelligence artificielle qui va permettre de faire les tâches pour vous. Et la manière dont il présente, c'est vraiment dans un monde futur après le smartphone, post-smartphone, où on passe de moins en moins de temps, finalement, notre tête et notre esprit enterrés dans nos écrans, dans les écrans de nos smartphones, eh ben, il est temps de revenir un peu dans le monde réel, le monde qui nous entoure, et de lever la tête de nos smartphones et de pouvoir réinteragir avec le monde qui nous entoure. Et donc, c'est un peu la promesse un petit peu de la société. Et donc, en fait, les reviews, les critiques qui sont sorties, donc il y a celle de The Verge que vous encourage à lire, et puis celle aussi assez négative aussi de Marques Brownlee, où il a fait une vidéo. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce qui pointe du doigt, c'est qu'aujourd'hui, l'objet ne délivre pas du tout sur sa promesse. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que des tâches évidentes attendues des utilisateurs ne sont pas prises en charge aujourd'hui, notamment mettre un timer, mettre un réveil, etc. Des choses qui semblent très, très évidentes, qui semble évidente parce que même Siri le fait. Siri, qui est un assistant débile, qui comprend la moitié de vos deux, même pas la moitié, pour être honnête, mais qui ne comprend que des demandes très spécifiques formulées correctement, correctement selon Siri, évidemment. Voilà, même ça, Siri le comprend. Or, là, Human AI ne permet pas de le faire. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont rentrées dans les habitudes des gens que Human AI, en tout cas ce petit objet, n'arrive pas à faire. Alors, ils disent qu'évidemment, ça va arriver, etc. Mais à l'heure actuelle, ça ne permet pas de le faire. Et ça fait cher pour quelque chose qui ne supporte pas des cas d'usage très évidents. L'autre élément problématique, c'est qu'en fait, ça lag, ça prend beaucoup de temps. Le délai entre le moment où vous posez la question et le moment où ça vous répond, eh ben en fait, des fois, c'est très long. La plupart du temps, même, c'est très très long. C'est une dizaine de secondes. Et en fait, dizaine de secondes, vous allez me dire, mais c'est pas si long. Mais en fait, si, sur une interaction conversationnelle, c'est très long. Très 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 long. Et donc, voilà, c'est là un des problèmes qui fait que, en fait, c'est très laborieux d'interagir avec, parce que si à chaque fois il met 10 secondes pour mouliner et ensuite te répondre, t'as plus envie d'interagir, c'est plus rapide de prendre ton téléphone, de faire quelque chose. Enfin, on est vraiment dans un monde de l'instantanéité. Donc, on n'est pas là pour attendre, etc. Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Et puis finalement, l'autre élément pour moi qui est vraiment le plus problématique finalement de Human AI, c'est qu'en fait, cette couche d'OS... où ils vous réinventent la roue, c'est-à-dire qu'ils vont vous réinventer une liste de tâches, une liste de rappels, ils vont vous demander d'avoir une autre application de messagerie. Enfin, j'ai juste envie d'utiliser ce que j'utilise déjà, en fait. Pourquoi tu me demandes d'utiliser une liste de rappels Human AI alors qu'en fait, j'ai ma liste de rappels ou de courses déjà dans mon smartphone Apple? On n'est pas dans un... Enfin, c'est très, très bizarre. À la fois, ils disent c'est pour les gens qui veulent se débarrasser des smartphones. Enfin bon, quand on voit le marché des smartphones dans le monde, ils sont quand même mal barrés. Voilà, ça veut dire que c'est quand même très, très niche. Et finalement, quand tu l'utilises, tu te dis, bah, moi, je pourrais être intéressée finalement par avoir un appareil plus réduit qui n'a pas d'écran pour faire des tâches très, très simples. Et dans une certaine mesure, l'Apple Watch... Et ça, alors certes, c'est un écran, mais c'est un hardware petit qui ne nécessite pas de passer du temps finalement dessus, qui n'a pas cet aspect de défocus que peut avoir le smartphone et qui te permet d'effectuer des tâches très simples. Donc, c'est un peu un premier Human AI pin finalement, sauf qu'au lieu de le porter sur ton torse, tu le portes à ton poignet. Mais en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'il est déjà intégré. Vous avez déjà tout l'écosystème d'applications. Vous retrouvez vos petits ici. Vous n'avez pas besoin de réinvestir finalement avec des applications alternatives, un OS alternatif, etc. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui empêche Apple ou Google ou Samsung ou qui a son OS de sortir finalement un compétiteur qui le fera mieux parce qu'ils auront déjà... finalement, le système, l'operating system qui va bien, avec les apps qui vont bien déjà de développer. Donc, c'est ça pour moi le principal problème de Human AI Pin et qui fait que jamais je n'investirai dans une société de pareil parce que son business model même ne tient pas la route en termes de compétition. Donc, voilà. Bref, au-delà du fait que ce produit extrêmement cher n'est pas à un état de finition prêt pour le marché à ce prix-là. Surtout, finalement, le principal business model ne tient pas la route pour moi. Mais bref, voilà. Donc, je vous encourage à aller voir un petit peu les reviews et tout, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé hein, de cet objet, comme je disais en début d'émission, à la fois au CES en janvier et à la fois au Mobile World Congress. Et c'est vrai que pas mal de journalistes avaient pointé du doigt le lag au Mobile World Congress, mais ils avaient dit, bon, c'est vrai que dans le condition d'un salon, le réseau est loin d'être optimal. On sait que c'est déjà galère de capter avec son smartphone, donc c'est tout à fait possible que finalement la latence vienne de la qualité du réseau. Or, finalement, non, la latence vient du produit en lui-même. Et c'est là la déception. On continue avec une news, cette fois-ci, très, très française et même très, très parisienne, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça vous concerne, vous, Parisiens, ou qui vivez à Paris, ou qui, en tout cas, utilisez le réseau de transport d'Île-de-France Mobilité. Depuis hier, le 15 avril 2024, les propriétaires de Galaxy Watch, les montres connectées de Samsung, peuvent tout simplement monter à bord d'un métro, d'un tramway ou d'un bus grâce tout simplement à leur montre et leur poignet. Voilà, les Galaxy Watch peuvent désormais remplacer les Pass Navigo à partir donc de la quatrième génération de Galaxy Watch. Et donc ça, ça arrive 5 ans après les smartphones Galaxy, les premiers appareils, les premiers smartphones compatibles finalement avec les tickets dématérialisés. Aujourd'hui, tous les smartphones Android sont depuis éligibles, mais à l'époque, les Galaxy étaient les premiers à pouvoir le faire. Donc Samsung devient encore une fois le premier constructeur à rendre compatible une montre avec le système de la région Île-de-France. Voilà, donc ça c'est déjà une première annonce. Vous pouvez en tout cas vous réjouir dans la chatroom pour ceux qui ont une Galaxy Watch. Qu'est-ce qu'il en est des possesseurs d'Apple Watch ? Eh bien, Apple devrait suivre avec son iPhone et sa Watch après des années de transactions entre mai et juin. À voir si ça va arriver en mai ou en juin, on est à un mois près. Après, maintenant, c'est disponible, mais est-ce que c'est facile à utiliser ? Ben ça, c'est une autre question. Hein. Là, c'est un article de Numérama qui aurait testé, qui se serait un peu plus penché, en tout cas, sur la question de la facilité d'utilisation. Et ils nous disent, en fait, le problème avec la Galaxy Watch, c'est que il ne fonctionne que sur la montre connectée. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de monter dans un bus avec son smartphone et puis d'assurer la correspondance dans le métro avec sa montre. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ça, c'est même au-delà de... Enfin, ça, c'est un vrai problème parce que normalement, les tickets vous permettent d'avoir les correspondances. Donc là, voilà, pour tout ce qui est correspondance en changeant de moyen de transport, c'est un vrai problème. Excusez-moi, j'ai mal compris la phrase. Je vous ai dit des bêtises. Je rembobine. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de pouvoir utiliser dans un cas son smartphone et dans un autre cas, utiliser sa montre. Les tickets de transport ne sont pas compatibles aujourd'hui entre téléphone et montre. Donc, si vous décidez d'utiliser votre pass ou vos tickets de transport, il faut configurer soit votre smartphone, soit votre montre, mais vous ne pourrez pas les avoir sur les deux. Alors, ça, c'est une limitation qui touche d'autres types de transport. Hein. Ce n'est pas Paris, la France est nulle, etc. Non, c'est une limitation technique qui impacte aussi d'ailleurs les cartes de transport au Japon. Les Suica, etc., c'est une limitation connue. Donc, attention, voilà. Donc, il faudra choisir entre son smartphone ou sa montre. Vous pourrez configurer vos titres de transport, mais pas les deux. Donc, même chose avec les tickets. Un carnet acheté donc, sur la montre ne fonctionnera que sur la montre. À savoir, vous le saurez, il ne faut pas s'étonner là-dessus. En pratique, est-ce que c'est vraiment un problème ? Moi, quand je le vois finalement, pour faire un petit parallèle, quand je vois Jérôme avec son Apple Watch, parce que moi, je n'ai pas d'Apple Watch, dès qu'il peut, il utilise par exemple sa montre pour payer par carte bancaire, pour le paiement sans contact. Il n'est pas en train de se poser la question « Ah, est-ce que je vais utiliser ma montre ou est-ce que je vais utiliser mon smartphone ?» Non. En fait, il va au plus rapide et le plus rapide, c'est sa montre. Donc, est-ce que vraiment dans la pratique, ça va être un vrai, vrai problème ? Je ne suis pas vraiment sûre. Ça va être un problème le jour où tu ne prends pas ta montre avec toi. Et en fait, quand je regarde Jérôme, il déteste sortir sans sa montre. Enfin, quand ça arrive, eh ben, il le sent et limite, il repart à l'appart pour prendre sa montre. Donc, en fait, je vois pas. Voilà, au quotidien, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment tant un problème que ça. Autre difficulté peut-être, c'est le processus d'achat de titres ou d'abonnement qui est assez contraignant puisqu'il oblige à installer les applications Île-de-France Mobilité et Tickets sans contact à la fois sur le smartphone et sur la montre pour pouvoir ajouter des titres sur sa montre. Donc, il faut impérativement passer par son smartphone puisque l'application Galaxy Watch ne permet que de consulter son solde restant. Donc, c'est un peu pénible parce qu'il faut à la fois télécharger deux applications et tu ne peux pas faire tout sur la montre. Il faut faire un truc sur le smartphone et l'autre sur la montre. Bref, ça semble en effet là un peu tiré par les cheveux. À voir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce sujet? Sur l'Apple Watch, qu'est-ce qu'il en est? Donc, sur l'Apple Watch, bon, le parcours d'achat devrait être simplifié, puisqu'en fait, ça va être directement intégré à l'Apple Wallet. Donc là, pour le coup, c'est assez, assez simple. Mais par contre, les contraintes devraient rester les mêmes. Voilà. Potentiellement, on pourrait transférer un pass d'un iPhone à une Watch. Ça reste à confirmer quand même. Comment ça se passe? Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passerait? Donc, en fait, on aura la même limitation que sur les Suica ou ce qui se passe sur les tickets dématérialisés pour les appareils Android. C'est-à-dire que vous pourrez avoir votre titre de transport soit sur la montre, soit sur le smartphone. Mais la différence, peut-être, sur l'iPhone, c'est que vous pourrez transférer quand même les titres de transport. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblerait. Une fois que vous ajoutez cette carte sur l'Apple Watch, vous l'enlevez de votre iPhone, vous pouvez de nouveau la transférer, mais c'est une manipulation. C'est vrai que cette limitation est assez pénible quand même. Mais là, justement, c'est un exemple de carte japonaise d'ailleurs que vous voyez, Octopus. Donc ça serait potentiellement possible sur Apple. Donc voilà, ça devrait arriver très bientôt. Il était temps. Un autre élément à garder en tête, c'est que plusieurs titres, comme le pass Navigo annuel, les passes remisées ou les billets région, ne sont pas accessibles sur smartphone. Ils arriveront à moyen terme, mais ils devraient rater le coche des JO. Bon, ben, moi j'ai un abonnement annuel. Ça ne sera pas encore pour moi cette fois-ci. Voilà. Le bol. Mais bon, on va y arriver, hein. On est en 2024, des choses quand même assez évidentes. Je vais vous dire, je suis impatiente de tester les cartes de transport au Japon. Bref, on continue et on termine, et il est 9h16, donc je terminerai avec cette information. Et on va parler notamment de Monument Valley. Monument Valley, c'est ce jeu-là, je vais carrément vous le montrer dans l'App Store, ça sera encore plus parlant. Hop. Bah alors, le moteur de recherche est en galère là. Eh ben dis donc. Bah, je sais pas, j'ai un problème de réseau là. Bon, j'ai le réseau qui m'a abandonné. Trop bizarre. Hop. Bon, bah écoutez, je vais pas pouvoir vous montrer. J'ai un réseau. Ah, voilà. Donc Monument Valley, c'est ça. C'est ce jeu-là que vous pouvez trouver donc sur l'App Store, qui est aussi disponible sur Android. Vous voyez, j'essaie de vous jouer des vidéos, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc là, c'est un petit peu une démo avec le petit personnage qui bouge et que vous pouvez faire bouger les éléments. Donc, tout ce qui est un peu rose, vous voyez un petit peu à l'écran, permet de bouger, en fait, d'interagir avec. Et donc, vous devez bouger d'un point A à un point B, hein, tout simplement, pour pouvoir sortir du labyrinthe, le petit personnage. Voilà un petit peu, donc, la démo de Monument Valley ici. Et pourquoi je vous en parle? Bah, tout simplement parce que le jeu Monument Valley atteint déjà ses 10 ans. Je suis choquée de vous dire ça, tellement pour moi, j'ai l'impression que c'était hier que Monument Valley était sorti et que j'ai passé des heures dessus à me casser la tête justement sur leur puzzle. C'est, je pense, mon jeu préféré sur iPad, sur mobile. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur, à la fois graphique, d'ambiance, sonore, d'univers, etc. C'était incroyable. Et donc ça, c'est un jeu qui a été développé par le studio Us2, un studio anglais. Voilà. C'était une agence à l'origine qui a été fondée par Matt Miller et John Sinclair en 2004. Et en gros, ils se sont dit, bah en fait, on doit avoir une petite vidéo, enfin pas une vidéo, mais un showcase, quelque chose qui permet de montrer les compétences de l'agence, et on va le faire avec un jeu intrigant. Et donc, du coup, ils se sont donné un petit peu cette mission. Et en fait, pour explorer ce qu'ils auraient pu faire, bah, ils ont déjà exploré l'univers graphique avec des petits concepts sous forme de sketch et les ont accrochés sur le mur. Et ils ont demandé aux gens de l'agence un petit peu de voter, d'exprimer leurs avis, etc. Et qu'est-ce qui a récolté le plus d'intérêt ? Et bien, finalement, c'est ce petit croquis ici qui montre une vue un petit peu bizarre d'un paysage un peu sous forme isométrique, avec un personnage énigmatique et un concept de bouger d'un endroit A à un point B. Ici, vous voyez même les petites zones qui permettent de bouger, etc. Avec le petit personnage emblématique qui était déjà là dans un des premiers sketchs. Voilà. Et donc, vraiment, le concept de bouger un personnage d'un point A à un point B dans un puzzle avec des illusions d'optique, d'architecture, en jouant avec la vue isométrique qui crée des passages d'architecture impossibles, et c'est vraiment ici inspiré des chars, a rencontré beaucoup, beaucoup de succès, à la fois à l'agence, mais évidemment auprès du grand public. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était une équipe d'environ juste 6 personnes, quand même, qui a développé et conçu le jeu du début à la fin. 6 personnes seulement. Et de l'idée à la sortie du jeu, ça a pris moins d'un an. Donc c'est quand même assez remarquable. Et ils expliquent aussi que la principale énergie a été passée à vraiment composer les différents niveaux du jeu. Et c'était vraiment le principe, c'était que chaque niveau était vraiment quelque chose d'unique et que ce n'était pas des niveaux pour remplir. Leur citation, c'est d'ailleurs « It had to be all killer, no filler ». Donc vraiment, chaque niveau avait un but d'apprendre généralement une nouvelle interaction ou un nouveau casse-tête finalement, un nouveau type de casse-tête à apprendre pour comprendre le fonctionnement du jeu. Donc un nouveau type de rotation, de mouvement, etc. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Il y avait aussi vraiment une partie d'apprentissage et de complexité qui augmentait avec les niveaux. Et donc, ils ont même mentionné que le nom du jeu n'était même pas considéré jusqu'au moment où ils ont dû montrer finalement le jeu à des journalistes pour être interviewés. Et donc là, ils se sont dit « Ah non, mais attends, il nous faut quand même un nom ». Et donc, ils ont essayé de trouver quelque chose d'assez familier, mais intriguant un peu. Voilà, et c'est là où Monument Valley est sorti. Et donc voilà, donc on a eu plein de niveaux ici, enfin plein de niveaux 10 à l'origine. Ils ont quand même réduit parce qu'ils avaient... à l'origine essayé de viser à 30 niveaux, mais de part pour cette portée de qualité, ils ont réduit à 10. Et dès le lancement du jeu, ils ont eu beaucoup, beaucoup de soutien de la part d'Apple, qui a utilisé le jeu vidéo comme même sur toutes leurs... enfin, sur tous leurs éléments de marketing. Et donc, évidemment, ça a beaucoup, beaucoup joué aussi sur le succès du jeu parce qu'en fait, vous aviez ces espèces de captures d'écran très graphiques, très belles, très intrigantes qui donnaient envie d'aller cliquer, d'aller voir qu'est-ce que c'était, tout simplement. Une ambiance assez unique, très calme aussi, quelque chose qui était assez nouveau avec ce type de jeu, même si ce n'était pas le seul à le faire. Il y avait cette ambiance très pensive, très calme, un petit cocon de douceur avec ce jeu très raffiné, quoi. Et donc ça, c'était très, très apprécié. L'univers sonore aussi qui a été vraiment défini avec soin, composé avec soin. Moi, la musique de Monument Valley, ça reste quelque chose que j'adore. Qui a été composé par Todd Baker. Et voilà, ça a vraiment créé un vrai engouement ici, une vraie reconnaissance. Ils ont eu pas mal de prix aussi, une vraie reconnaissance à la fois au sein de la critique, mais également du grand public ici. Ils ont également sorti une extension du jeu vidéo qui s'appelle Forgotten Shores. Voilà, donc vous voyez l'icône, j'ai toujours un réseau formidable ici, donc Monument Valley, Valley 2, mais qui s'appelle en fait Forgotten Shores quand vous ouvrez l'application, et qui a permis de créer vraiment, d'abord de partager des niveaux qui avaient été omis, hein, qu'ils n'avaient pas publié dans le premier jeu, et également de carrément augmenter en termes de popularité, de créer carrément une fanbase ici, et vous voyez les chaussettes Monument Valley, moi je les veux quoi, voilà, je veux les chaussettes, je veux un mug, je veux des chaussettes, c'est trop bien. Je suis fan de Monument Valley, j'assume. Est-ce que je porterai les chaussettes? Oui. Voilà, en hiver, avec des pantalons bas. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La chose à retenir, surtout, et moi qui a fait bondir mon petit cœur de fan de Monument Valley, c'est que l'arrivée d'un Monument Valley 3 devrait arriver bientôt. Alors, Monument Valley 2 était sorti en 2017, et Monument Valley 3 est en stage de production avancé. Voilà, on n'a pas de date de sortie, donc il va falloir encore patienter, mais c'est en stade de production avancé. Donc voilà, on peut se féliciter que ça va bientôt arriver. Ils nous disent justement, un des concepteurs, j'ai toujours pensé à Monument Valley 1 comme vraiment assez pur, Monument Valley 2 comme assez... plutôt porté sur la narration, le narratif, il y a carrément une histoire, etc., beaucoup plus développée. Et Monument Valley 3 prendra le meilleur des deux, le meilleur des deux mondes. Donc, on peut se réjouir ici. Pour l'instant, on a le secret qui est assez, assez important autour de ce nouveau titre. On a des suggestions comme quoi, cette fois-ci, le jeu pourrait être plus facilement rejouable. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait les puzzles de Monument Valley 2, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va rejouer de manière très fréquente. Donc, à voir si cette fois-ci, on aura un changement un petit peu de perspective. Donc, Monument Valley 1 et 2 sont disponibles sur l'App Store et le Google Play Store, également sur Steam. Et la série devrait arriver également sur Netflix Gaming plus tard dans l'année. Peut-être que ça sera combiné avec l'arrivée du troisième opus, à voir. Mais en tout cas, vous pouvez patienter et vous dire que Monument Valley 3 va arriver. Voilà, c'était mon petit moment... fangirl sur ce jeu vidéo. Là-dessus, il est 9h27, on ne fait pas le mug aussitôt quand même, 9h27. J'espère que l'émission vous a plu. C'était un plaisir en tout cas de vous débriefer un petit peu de l'actualité tech ce matin, de vous demander votre avis sur ces différents sujets. On va regarder avant de se quitter qui est en live en ce moment, pour pas vous laisser en plan. Hop. Alors, vers qui on pourrait faire un petit raid? Hop. Ah ben, on va aller rendre visite à Pépipin. Voilà, ça faisait longtemps. On va faire Pépipin ce matin. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous retrouve mardi prochain, sans faute. Et sinon, vous retrouvez Jérôme dès jeudi matin à 8h pour le prochain mug. Très bonne journée, très bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye!